Chapitre 49. Lorsque Constance reprit connaissance, elle eut la surprise de se retrouver dans son propre lit. Elle n'avait plus ni chaussures, ni blouson, ni holster. On avait tiré les rideaux de la chambre, mais la porte était restée entrouverte. En tendant l'oreille, elle perçut des voix qui chuchotaient dans le salon. Qui l'avait ramenée chez elle? Botsaris? Le SAMU? Les pompiers? Elle déglutit avec peine. Elle avait la langue pâteuse, un goût de papier mâché dans la bouche, les membres ankylosés et le souffle court. Une douleur lancinante et aiguë battait dans sa tempe droite. Ah, elle regarda l'heure sur le radio-réveil. Midi. Elle était restée inconsciente plus de 2 heures. Elle essaya de se lever. Mais le côté droit de son corps était lourd, parcouru de douleurs et de fourmillements. Soudain, elle réalisa qu'elle était menottée à la tête de son lit. Révoltée, elle se débattit, mais cela ne servit qu'à alerter ses ravisseurs. « Calm down !» dit Nikki en entrant dans la chambre, un verre d'eau à la main. « What the fuck are you doing in my house ?» hurla Constance. Nous n'avions pas d'autre choix où aller. Constance se redressa sur son oreiller pour reprendre sa respiration. « Comment avez-vous su où j'habitais ?»« Nous avons trouvé un formulaire de suivi de courrier dans votre portefeuille, apparemment. Vous avez déménagé depuis peu de temps. Jolie baraque, d'ailleurs. » La jeune flic défia l'américaine du regard. Elle avait à peu près son âge, même visage fin et anguleux, même regard clair, même cerne sous les yeux qui trahissaient le stress et la fatigue. « Écoutez, je crains de ne pas bien comprendre vos motivations. Si je ne donne pas de nouvelles très rapidement, mes collègues seront là d'une minute à l'autre. Ma maison sera cernée. » Je ne crois pas, la coupa Sébastien en entrant à son tour dans la chambre. Constance découvrit amèrement qu'il tenait sous le bras son dossier médical. Vous n'aviez pas le droit de fouiller dans mes affaires, se révolta-t-elle. Je suis navré de vous savoir malade, mais je suis à peu près certain que vous n'étiez pas en mission officielle, répondit-il calmement. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Vraiment? Depuis quand les flics conduisent-ils leur véhicule personnel pour procéder à une interpellation? Constance resta silencieuse. Sébastien enfonça le clou. Depuis quand un capitaine de police part-il seul en intervention sans une équipe pour l'épauler? En ce moment, on a des problèmes d'effectifs dans le service, répondit-elle bravache. Oh, j'oubliais. J'ai aussi trouvé la copie de votre lettre de démission dans un dossier de votre ordinateur. Constance encaissa ce dernier coup. La gorge sèche, elle accepta de mauvaise grâce le verre d'eau que lui tendait Nikki. Avec sa main libre, elle se frotta les paupières, se désolant de voir la situation lui échapper totalement. « Nous avons besoin de votre aide, » avoua Nikki. « Mon aide ? Mais qu'attendez-vous de moi ? Que je vous prête main forte pour quitter le territoire ?»« Non, » corrigea Sébastien, « que vous nous aidiez à retrouver nos enfants. » Il fallut plus d'une heure à Nikki et Sébastien pour détailler à Constance l'enchaînement des événements qui avaient bouleversé leur vie ces derniers jours. Installés tous les trois autour de la table de la cuisine, ils avaient bu 2 théières de gyokuro et vidé 1 paquet de galettes Saint-Michel. Absorbée par le récit du couple, Constance avait pris des notes pendant toute la durée du débriefing, noircissant 10 pages d'un cahier d'écolier. Bien que Sébastien eût menotté son pied à sa chaise, elle sentait bien que le rapport de force penchait désormais en sa faveur. Les deux Américains étaient non seulement empêtrés dans une histoire susceptible de les envoyer derrière les barreaux pour le reste de leur vie, mais surtout désespérés par la disparition de leurs jumeaux. Lorsque Nikki termina son compte-rendu, la jeune flic prit une longue inspiration. L'histoire des Larrabee était abracadabrante, mais leur détresse était palpable. Elle se massa la nuque et constata que sa migraine s'était estompée, que sa nausée avait disparu et que son corps avait repris des forces. Les vertus magiques de l'enquête. « Si vous voulez vraiment que je fasse quelque chose pour vous, il faut d'abord que vous me détachiez, » ordonna-t-elle avec autorité. « Ensuite, il faudrait que j'analyse le film de l'enlèvement de votre fils. » Sébastien obtempéra et débarrassa la jeune femme de ses menottes. Pendant ce temps, Nikki ouvrait l'ordinateur de Constance et se connectait à sa propre boîte mail pour rapatrier le film sur le disque dur. « Voilà ce que nous avons reçu, » dit-elle en lançant l'enregistrement. Constance visionna une première fois le film de 40 secondes, puis le relança dans la foulée en figeant les images stratégiques. Nicky et Sébastien ne fixaient pas l'écran, mais le visage de celle en qui ils plaçaient désormais leurs derniers espoirs. Concentrée, Constance fit défiler de nouveau l'enregistrement au ralenti avant de trancher. « Tout ça, c'est du bidon. »«
Comment ça ?» fit Sébastien.
Constance précisa sa pensée. « Ce film est un montage. En tout cas, il n'a pas été tourné à la station Barbès. »
« Pourtant, » protesta Nicky.
Constance leva la main pour l'interrompre. « Lorsque je suis arrivé à Paris, j'ai habité pendant 4 ans dans une chambre de bonne, rue Ambroise Paré, en face de l'hôpital La Riboisière. Je prenais le métro à Barbès-Rochechouart au moins 2 fois par jour. » Et la flic appuya sur pause pour fixer l'image. « 2 lignes passent par Barbès, » expliqua-t-elle. « La numéro 2, dont la station à cet endroit est aérienne, et la numéro 4, qui est souterraine. » Avec son stylo, elle pointa l'écran tout en poursuivant sa démonstration. « Sur ce film, la station n'est visiblement pas à ciel ouvert. Il ne peut donc s'agir que de la ligne 4. « On est d'accord, » acquiesça Sébastien. Or, la station de la ligne 4 est connue pour être à la fois inclinée et surtout en courbe prononcée au niveau des quais, ce qui est très inhabituel. « Ce n'est pas le cas ici, » admit Nicky. Sébastien rapprocha son visage de l'écran. Son excursion à Barbès et sa rencontre malheureuse avec les trafiquants de cigarettes lui avaient laissé des souvenirs douloureux. Mais il ne se rappelait pas la configuration exacte de la station. Constance ouvrit son logiciel de messagerie. « Il y a un moyen imparable de savoir où ce film a été tourné », affirma-t-elle en commençant à rédiger un mail. Elle expliqua qu'elle voulait envoyer la vidéo à son collègue, le commissaire Maréchal, qui dirigeait la sous-direction régionale de la police des transports, l'administration qui chapeautait la brigade des réseaux ferrés. Franck Maréchal connaît le métro parisien comme sa poche. Je suis certaine qu'il saura de quelle station il s'agit.
« Attention, hein, pas d'entourloupe », menaça Sébastien en se penchant sur son épaule. « Nous n'avons plus rien à perdre. N'essayez pas de nous doubler, sinon... Et d'ailleurs, il y a à peine 3 heures, vous cherchiez à nous arrêter. Pourquoi seriez-vous subitement prête à nous aider ?»
Constance haussa les épaules et cliqua sur l'icône d'envoi. « Parce que je crois à votre histoire. Et soyons réalistes, vous n'avez plus vraiment d'autre choix que de me faire confiance. »